Jean de la Brette. L'esprit souffle où il veut. Chapitre 1. La paix qui s'étendait ce soir de juillet sur la rade de Brest était singulièrement douce et pénétrante. Les plus rebelles aux influences de la beauté eussent éprouvé cette émotion religieuse qui, s'échappant comme un hommage de l'être humain, se mêle, avec tant d'autres souffles bons ou mauvais, à la vie universelle. Le soleil qui s'affaissait envoyait de longs rayons sur la mer calme et la lumière encore brillante s'atténuait graduellement comme un doux souvenir dans une existence heureuse et paisible. Sous le charme de cette impression, une jeune fille, accoudée à la fenêtre d'un hôtel, s'absorbait dans la contemplation de la mer. Son sein se soulevait comme si une angoisse l'étreignait, et dans l'admiration qu'exprimait son regard pensif, s'ajoutait évidemment une pensée douloureuse. Son corps gracieux, qui annonçait la force, ne dépassait pas la moyenne. Sa tête fine, bien attachée et régulièrement jolie, quoique sans éclat, était surtout remarquable par sa grande jeunesse. Avec ses cheveux blonds, réunis en une seule natte qui flottait librement sur le dos, elle avait 15 ans en apparence. Mais elle en comptait 19 au moment de cette pure soirée qui l'attristait. Mademoiselle de Sarzac était née à Bordeaux, où son père, après avoir dévoré un riche patrimoine, occupait chez un banquier une position lucrative. La conduite indélicate de M. de Sarzac l'ayant obligé à quitter Bordeaux, il s'établit à Paris et commença une de ces existences problématiques dont le fond touche au déshonneur, lors même que les apparences conservent de la correction. Mais bientôt, ni le nom du baron et de la baronne de Sarzac, ni leur distinction extérieure ne suffirent pour protéger leur réputation. Une évolution se fit promptement autour d'eux, leurs vieilles relations s'éloignèrent, et quand la jeune fille put observer, juger et subir l'influence de l'entourage, elle était dans un milieu de bohème et de déclassés. De bonne heure, elle en souffrit cruellement. Son instinct, ses goûts, tous les souvenirs de son enfance étaient en contradiction avec la vie et le monde que lui imposaient les circonstances. Cette souffrance s'accroissait par le dédain que M. et Mme de Sarzac manifestaient entre eux pour des gens qu'ils recevaient ou voyaient quotidiennement, car ils avaient conservé la vanité hautaine de leur nom après l'avoir traîné dans maints compromis. Dans cette anomalie, Mademoiselle de Sarzac voyait la réminiscence d'un passé dont le souvenir lointain se réveillait parfois chez elle avec vivacité. Peut-être cette impression, usée par le temps, se fût-elle évanouie, sans les goûts délicats de la jeune fille, sans son sentiment de la dignité extérieure et une droiture que froissaient les habitudes ou les propos de son milieu. D'une intelligence très ouverte et développée par la souffrance, Mademoiselle de Sarzac n'avait reçu aucune éducation morale. Cependant, enfant, elle avait connu chez une aïeule la douceur des souvenirs traditionnels, la saine vigueur de conviction qui se fussent plus tard harmonisée avec sa nature. Mais la mort ayant détruit le seul centre où pussent se retremper certaines facultés, elle avait simplement gardé de ce temps un souvenir troublant et la mère pensait qu'elle était déclassée. Les rapports très tendus entre ses parents rendirent sa vie absolument pénible, souvent intolérable, jusqu'au moment où M. et Mme de Sarzac se séparèrent. Les minces revenus de la baronne étant pour elle la misère, elle songea à exploiter la voix magnifique de sa fille, dont le succès réalisa toutes ses espérances. Mademoiselle de Sarzac, qui avait pris d'excellentes leçons et manié son instrument en artiste, acquit rapidement une célébrité réelle dans les concerts et les salons parisiens. Les ressources qu'elle apportait ainsi à son foyer eussent été suffisantes pour vivre honorablement, sans les habitudes de dépenses de la baronne et les dettes dont elle était criblée. Bien que Mademoiselle de Sarzac ne connût pas le fond de la situation, cette existence fut pour elle la source de souffrances continues et variées. Son âme, ses goûts, ses sentiments étaient ceux d'une artiste et souvent elle frémissait d'une joie toute vibrante lorsque son talent recevait la sanction enthousiaste d'un public qu'elle avait élevé au-dessus de lui-même. mais le sentiment de son déclassement et le côté matériel de sa vie l'écœuraient, révoltaient sa fierté et la faisaient soupirer vers l'existence assise entrevue dans son enfance. Elle songeait à ses tristesses qui contrastaient avec la calme beauté de la nature qu'elle admirait lorsque sa mère entra dans la chambre. « Eh bien, Aliette, te voilà déjà arrivée. Il faut t'habiller, tu es couverte de poussière. Tu sais bien que j'ai donné rendez-vous au chef d'orchestre. Il sera ici dans une heure. » « Je n'y pensais plus, » répondit Mademoiselle de Sarzac, qui oubliait dans sa rêverie que son arrivée à Brest était motivée par l'organisation d'un concert. « Mais où serait le mal si on me voyait avec ma poussière? Je suis bien ici, laissez-moi admirer. C'est ravissant et il est si rare. »« Presse-toi, » interrompit la mère d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Les sourcils froncés, la jeune fille se dirigea vers sa malle et, s'arrêtant devant une glace, se regarda longuement d'un air irrité. Puis, cédant soudain à une résolution prise depuis plusieurs jours, elle défit sa trousse de voyage et, en quelques instants, transforma complètement sa coiffure enfantine. « Du moins, sur ce point, plus de mensonges, » murmura-t-elle. Sa jolie tête, dont les lignes fines mais nettes indiquaient de la volonté, avait perdu son air enfant et un sourire de satisfaction entr'ouvrait ses lèvres quand elle entra dans le petit salon où la baronne l'attendait en causant avec le directeur du concert. En voyant sa fille, Madame de Sarzac réprima un mouvement emporté et ne put continuer la phrase que l'arrivée d'Aliette interrompait. « Ma fille est si jeune, il est extraordinaire qu'à son âge !» Monsieur Laffitte, un petit homme trop gros, qui portait de longs cheveux plats pour avoir l'air d'un artiste, cumulait les fonctions de chef d'orchestre du théâtre, de directeur de la Société philharmonique et, dans les grandes circonstances, d'organiste de Saint-M. Il salua Mademoiselle de Sarzac en disant « Mademoiselle est bien jeune, en effet. J'ai 19 ans, » interrompit froidement Aliette, qui voulait prévenir la réponse de sa mère. « Ah, on prétendait que vous aviez à peine 15 ans, mademoiselle, ce qui rendait vraiment phénoménal votre grand talent. Nous sommes bien heureux que vous ayez consenti à venir ici. » Elle s'inclina sans répondre et le petit directeur pensa que l'amabilité n'était pas toujours compatible avec le talent. « Je disais à Madame de Sarzac que nous sommes obligés de reculer de quelques jours la date du concert. J'espère, mademoiselle, que vous n'en serez pas contrariée. » « Nous en profiterons pour voir la côte et aller chez nos cousins les Rilly, » répondit négligemment la baronne. « Vous les connaissez, peut-être ? » ?»« Tout le monde les connaît, leur nom est un des plus vieux de ce pays-ci, » répliqua M. Laffitte avec une nuance de respect. Satisfaite de s'être ainsi posée dans l'esprit du chef d'orchestre, Madame de Sarzac se mit à discuter la question d'argent. C'était pour Aliette un moment si pénible qu'elle s'éloigna doucement vers la fenêtre et regarda dans la cour intérieure de l'hôtel. Près d'un vieux puits, à larges margelles et à grandes poulies rouillées, une servante, au visage épanoui, s'était installée pour nettoyer des cuivres qu'elle fourbissait avec entrain. De temps en temps, elle se reculait pour mieux juger l'effet du travail et, le bras tendu sur l'ustensile posé au bord de la margelle, elle riait devant son œuvre. Elle appela un valet d'écurie pour lui faire admirer l'éclat de ses chaudrons qui brillaient encore malgré le crépuscule dont l'ombre s'épaississait. « Vous vous y entendez, ma foi ?» semblait dire le valet. Des domestiques qui traversaient la cour se groupèrent autour d'eux et la servante eut un geste de vanité enfantine qui exprimait clairement « Faites-en autant, vous autres !» Elle paraissait tellement heureuse au milieu de ce travail et de ces gens grossiers que Mademoiselle de Sarzac pensait « Je voudrais être elle !» Et son regard suivit tous les détails de ce tableau familier jusqu'au moment où M. Laffitte s'approcha pour la saluer. « Voilà de singulières gens !» se dit-il en s'en allant. « Si la fille ne met pas plus de chaleur dans son chant que dans sa conversation, c'est encore une réputation usurpée. » « Je verrai cela demain. Quant à la mère, elle a discuté le gain en vraie cabotine et m'a congédié de l'air d'une grande dame qui en a par-dessus la tête des petites gens. Mais, après tout, c'est une femme charmante et c'est sans doute son gredin de mari qui l'a réduite à cette extrémité. » Madame de Sarzac avait le don de laisser une impression favorable, même lorsque, à ses manières tantôt caressantes, tantôt plus froides, s'ajoutait une pointe d'impertinence. Il lui fallut un don d'observation bien aiguisé pour découvrir en elle des nuances fugitives inquiétantes. Sa beauté encore grande, son aisance, surtout son air essentiellement posé, inspirait la confiance et la rendait sympathique aux étrangers. Monsieur Laffitte disparu, elle s'abandonna à son irritation. « Je t'ai défendu, Aliette, de changer ta coiffure. Pourquoi l'as-tu fait? Où as-tu pris cette robe trop longue ?»«
Je l'ai rallongée la nuit dernière, » répondit la jeune fille, « et j'ai changé ma coiffure parce que je veux avoir mon âge réel. »
« Que signifie cette fantaisie ? » s'écria la baronne. « Tu sais qu'étant considérée comme une exception, ton succès était d'autant plus grand, et tu vas dire ton âge à ce chef d'orchestre. Le succès sera ce qu'il pourra, mais je ne me prêterai plus à aucune dissimulation. »
Madame de Sarzac s'était plus d'une fois heurtée à la volonté de sa fille, qui refusait de chanter lorsqu'on la froissait trop vivement. Elle n'osa pas insister, et, après avoir redouté une scène, Aliette fut singulièrement soulagée, car elle venait de faire un pas dans une voie inconnue, cherchée avec angoisse quand son existence agitée lui permettait de penser. Le lendemain, les vagues inquiétudes de M. Laffitte se dissipèrent aux premières notes que lança Mlle de Sarzac, dont la voix dramatique remuait les fibres les plus profondes. Quand s'éteignirent les dernières phrases de la berceuse qu'elle chantait avec une mélancolie intense, le chef d'orchestre était hors de lui et des applaudissements enthousiastes éclatèrent sous la fenêtre. Des voyageurs, des gens qui passaient devant l'hôtel, le personnel de la maison s'étaient groupés dans la cour, près du vieux puits sur lequel la grosse servante de la veille avait grimpé avec l'espoir de voir l'artiste. Le visage d'Aliette s'éclaira d'un joyeux sourire en voyant la stupéfaction admirative de ce groupe sympathique.
« Ils comprennent, je vais leur chanter autre chose !» s'écria-t-elle en allant vivement au piano. « Non, non, mademoiselle, il ne faut pas vous prodiguer, il faut garder la surprise tout entière pour notre concert !» répondit le chef d'orchestre en courant fermer la fenêtre.
« Ma fille n'entend rien aux affaires !» ajouta Madame de Sarzac amèrement.
Aliette les regarda avec étonnement, puis avec un dédain qui s'exprima nettement dans son regard. Elle s'assit, mécontente, au fond du salon et refusa de chanter uniquement pour M. Laffitte, malgré les vives instances du directeur.
« Il ne faut pas me prodiguer, ma voix pourrait se fatiguer !» répondit-elle avec ironie.
Rien ne l'irritait, comme les incessantes allusions de la baronne au côté commercial de sa situation. Mais Madame de Sarzac, tout en la blessant quotidiennement, était incapable de comprendre la souffrance aiguë qui traversait alors les impressions de sa fille et altérait même son talent. Soutenue par l'esprit de l'art, qui, passant sur elle pour l'élever et la charmer, était la vie de ses facultés, Aliette trouvait odieusement pénible le brutal contraste entre ses sentiments d'artiste et les idées uniquement mercantiles de sa mère.
« Comme il vous plaira, mademoiselle, » répondit M. Laffitte d'un ton piqué. « En tout cas, je vous promets un succès, et je suis bien certain qu'un deuxième concert vous sera demandé. Mais, croyez-moi, mieux vaut en attendant vous faire entendre le moins possible. »«
Nous allons aujourd'hui chez Rilly, » répliqua Madame de Sarzac. « Et ma fille n'aura aucune occasion de compromettre son succès. » Le soir même, en effet, un vieux coupé, traîné par deux bêtes efflanquées, s'arrêtait à la porte de l'hôtel et Aliette, après une triste journée, s'égaya un instant devant l'air important du cocher qui, vêtu d'une antique livrée usée, conduisait avec gravité ses chevaux mourants. La route que suivait la voiture longeait une rivière étroite et courante. Le chemin s'enfonçait dans l'intérieur des terres pour tourner insensiblement et revenir vers la mer, dans laquelle la rivière allait se jeter après s'être divisée en petits courants qui se perdaient entre la gorge d'une falaise. À l'extrémité des coteaux qui encaissaient le cours d'eau, la maison de M. de Rilly était posée sur un fond de sapin dont la note sombre permettait à la vieille habitation en granit de ressortir avec quelque vigueur.
C'était un carré long, avec des toits arrondis et de hautes fenêtres à petits carreaux. On y accédait par une pente douce, recouverte d'un gros gravier, qui criait sous les roues des voitures et les pieds des chevaux, de sorte que les habitants de la maison étaient prévenus quelques minutes avant l'arrivée des visiteurs. « Au moins, on a le temps de se retourner, » disait M. de Rilly, dont les toilettes campagnardes laissaient à désirer. M. et Mme de Rilly, parents éloignés de la baronne, avaient toujours refusé de croire aux vagues rumeurs qui étaient parvenues au fond de la Bretagne sur la réputation des Sarzac. La baronne passait auprès d'eux pour une victime et, lorsqu'elle songea à vivre du talent de sa fille, elle écrivit à sa cousine une lettre empreinte d'une désolation si sincère que M. et Mme de Rilly la plaignirent au lieu de la blâmer, bien que cette décision blessât leurs idées et leurs sentiments. Madame de Rilly était grande, forte, avec des traits énormes qui donnaient à sa figure l'aspect d'un masque. Mais ses lèvres épaisses et ses yeux enfouis dans les proéminences du visage exprimaient assez de bonté pour qu'on oubliât le côté caricatural de son physique. Très simple de manière et de conversation, elle ne tardait pas à causer intimement avec les étrangers, ne doutant pas d'ailleurs que ses affaires personnelles ne fussent aussi intéressantes pour les autres que pour elle-même. En revoyant Madame de Sarzac toujours belle, avec cette distinction de bon aloi qui était restée dans le souvenir de la Bretonne, Madame de Rilly s'applaudit de n'avoir pas cru à des propos méchants. Elle reçut sa cousine en disant « Ma pauvre Jeanne, vous avez été bien malheureuse !»« Oui, répondit la baronne avec des larmes dans la voix, et votre amitié me fera du bien !» Aliette, à laquelle M. de Rilly souhaitait la bienvenue avec une grande bonhomie, écoutait, étonnée, la voix émue de sa mère et regardait avec surprise le couple singulier qu'elle avait sous les yeux. M. de Rilly, petit et maigre, avait les manières simples de sa femme. Il lui parlait avec déférence et paraissait l'admirer comme si elle eût été jeune et belle. Ils s'étaient toujours connus, toujours un peu aimés, mais les circonstances les ayant séparés, la jeunesse avait fui sans qu'ils pussent réaliser le projet de s'épouser. Elle avait 52 ans et lui 60 quand, se retrouvant vieillis, ils découvrirent que le passé n'était point enseveli sous la cendre. Mariés depuis 5 ans, ils prenaient encore au sérieux, avec la plus parfaite inconscience du ridicule, leur amour et leur regain de jeunesse. La bonne grâce très simple avec laquelle ils accueillirent leurs invités mettait ceux-ci immédiatement à l'aise et, après le dîner, il sembla à Aliette qu'elle les connaissait depuis son enfance. En se promenant avec M. de Rilly, elle remarqua l'harmonie qui existait entre ses cousins et le cadre au milieu duquel ils vivaient. Les jardins, dessinés en carrés réguliers, conservaient les vestiges d'un goût suranné. Des statues, brisées pour la plupart, des vases aux formes larges, recouverts de plantes parasites, ornaient le parterre où fleurissaient à foison les vieilles fleurs qui avaient charmé le regard des bisaïeuls de M. de Rilly. Aliette goûtait vivement la saveur poétique de ces lieux qui conservaient leur physionomie d'autrefois et elle acheva de gagner la sympathie de son hôte en admirant avec une sincérité sans équivoque. « Avez-vous toujours habité ici ? » demanda-t-elle. « Toujours, et je m'en félicite. Je n'aime ni la ville, ni ses habitants. »«
Même Paris ?»«
Surtout Paris. Cette Babylone, cette ville de pourriture !» répondit M. de Rilly avec une véhémence qui étonna Mlle de Sarzac. Déjà, pendant le dîner, elle avait remarqué combien les idées de ses cousins étaient arrêtées et intransigeantes sur une foule de sujets. Toutefois, lorsqu'on discutait, M. de Rilly, qui craignait de blesser son interlocuteur, adoucissait aussitôt ses expressions et cherchait à concilier. Elle le sentait excellent sous ses préjugés et ses vues courtes, qu'elle eût combattu facilement, car son esprit ouvert saisissait les côtés faibles d'une idée. « Voyez comme c'est beau ici !» lui dit M. de Rilly. Parvenus à l'extrémité de la propriété, ils s'arrêtèrent sous des arbres vigoureux, malgré le voisinage immédiat de la mer. Les flots se ridaient à peine, tant l'air était immobile. À droite, une pointe de rocher, qui avait derrière elle un ciel pourpre et violet, semblait particulièrement sombre. Les tons du ciel, en se graduant, perdaient plus loin leur violence pour devenir rose fanée et vert insaisissable, pendant que, du côté opposé, la mer reflétait déjà une longue traînée de tons argentés, fins et soyeux. Des nuées transparentes s'élevaient à l'horizon, comme pour s'interposer entre la réalité et le rêve mystérieux qu'éveille la vue de l'immensité et le bruit berçant de la vague qui déferle. Mademoiselle de Sarzac, en regardant, écoutait dans ses souvenirs le son lointain d'une voix qui parlait de sentiments purs et de pensées hautes. Saisie par un trouble plein d'inquiétude qui l'entraînait fréquemment à chercher une vie morale dont aucun esprit autour d'elle ne lui révélait l'existence, elle sentait ses yeux se mouiller dans une angoisse incompréhensible. « Nous venons très souvent ici, ma femme et moi, » lui dit M. de Rilly. « Je le comprends, » répondit-elle avec une sorte de ferveur. « Comme c'est triste, » reprit-il après un moment de silence, « de penser que bientôt je ne verrai plus tout cela. »«
Ne plus voir ? Et pourquoi ? » s'écria-t-elle.
« Ma vue s'en va. Dans moins de 3 ans, je serai certainement aveugle. Mais que la volonté du bon Dieu soit faite, » ajouta-t-il en se découvrant. Ces derniers mots furent dits avec une telle simplicité, comme l'expression d'un fait qui ne pouvait être discuté un instant, que Mademoiselle de Sarzac le regarda avec une immense curiosité. C'était la première fois qu'un homme exprimait devant elle, avec cette netteté, un sentiment religieux, et M. de Rilly remarqua son étonnement, sans pouvoir en démêler la cause, sans se douter un instant qu'il avait mis le pied sur un terrain qu'elle cherchait souvent à explorer. Les tendances d'esprit naturellement élevées de Mademoiselle de Sarzac la tiraient vers une pente religieuse, mais vivant, sans contrepoids, dans une atmosphère débilitante et sceptique, où toute religion positive était traitée devant elle de système vieilli, sans consistance, destinée à disparaître sous l'influence des conceptions modernes, elle s'égarait sans cesse à la recherche inquiète d'un aliment que les idées affirmées dans son milieu ne lui avaient jamais donné. En rentrant, pensive dans le salon, elle remarqua l'empressement courtois de M. de Rilly auprès de sa femme et ne songea pas à sourire quand sa cousine lui dit tout bas, avec une naïve conviction,
« Mon mari est toujours très amoureux de moi. Je vous souhaite un bonheur comme le mien, ma chère enfant. »
Mademoiselle de Sarzac, sans répondre, se dirigea vers le piano et chanta avec émotion. Cet intérieur paisible, dont les ridicules s'évanouissaient pour elle devant les éléments d'affection et d'honnêteté qui en étaient le fond, remuait la souffrance amassée dans son âme.
« Quelle voix ! Quelle voix ! » s'écria Madame de Rilly en pleurant. « Vous allez au fond du cœur, Aliette !»
« Une voix pareille est une fortune, » dit M. de Rilly, qui serrait les mains de la jeune fille sans chercher à cacher son émotion. « Je ne comprendrai plus maintenant qu'on mit un tel talent sous le boisseau. »«
C'est ce que je répète sans cesse à cet enfant qui prétend que le succès lui est indifférent, » répondit Madame de Sarzac.
« Il est vrai, » ajouta-t-elle en changeant de ton, « qu'il est bien triste, avec un nom, d'en être réduite à gagner ainsi sa vie. »
« C'est triste, mais ce n'est pas un déshonneur, » répliqua Madame de Rilly avec sympathie. « Encore, Aliette, encore, je vous en prie !»
Mademoiselle de Sarzac chanta longtemps avec la plus grande complaisance et s'amusa des compliments outrés dont ses cousins l'accablèrent. Mais elle les avait pris en gré et lorsque, le soir, sa mère fit ressortir leur ridicule en s'en moquant, elle répondit froidement
« Je les aime, ils ont l'air de si braves gens !»
« Naturellement, » répondit Madame de Sarzac avec ironie. « Ai-je dit le contraire, d'ailleurs ? Et pourtant, sois sûre qu'au fond, ces gens momifiés ne sont pas meilleurs que d'autres. » Il est rare qu'un sentiment irrité ne domine pas les dévoyés lorsque, se retrouvant dans leur milieu primitif, ils constatent la distance qu'ils ont parcourue dans l'ornière boueuse au lieu de suivre le sentier battu. Non seulement la baronne éprouvait cette irritation au contact d'un monde qui avait été le sien, mais elle l'éprouvait sans cesse vis-à-vis de sa fille. Aliette lui échappait par toutes les issues, restant, en dépit des exemples, récalcitrante aux effets moraux d'une éducation déplorable. Non pas, cependant, que cette éducation n'eût mis son empreinte sur elle par certains côtés, et Madame de Sarzac,
qui récoltait après avoir sonné, se plaignait amèrement des réponses sèches ou impertinentes de sa fille. Toutefois, la nature droite, honnête, d'Aliette, ne prenait aucun faux pli. Elle était une contradiction vivante et continuelle de la nature de sa mère qui, sans remonter à la cause du sentiment, en ressentait une extrême irritation. Et mademoiselle de Sarzac se demandait fréquemment si l'affection de la baronne ne s'était pas absolument émoussée au milieu des soucis et des tiraillements de leur pénible vie. Avant de s'endormir, toutes ses pensées se condensèrent dans un rêve où elle se voyait avec sa mère, habitant en Bretagne une modeste maison, loin des agitations de leur existence actuelle.